10h, 11h sur RCM. Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et bonjour et bienvenue en direct dans l'émission Et puis c'est tout, l'émission qui chaque mois traite des épilepsies. Et aujourd'hui une émission spéciale, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir beaucoup de monde dans ce studio. Vous pouvez applaudir, on peut applaudir parce qu'aujourd'hui il y a du monde. On a le plaisir d'accueillir plein de jeunes qui vont nous parler de leur vie avec l'épilepsie. Et on va voir ensemble qu'on peut faire plein de choses, même quand on souffre d'une épilepsie. C'était une émission spéciale, donc Et puis c'est tout, on est ensemble jusqu'à 11h.
10h, 11h sur RCN, Et puis c'est tout.
Voilà une émission spéciale que je suis très content d'animer ce matin avec toi, Audrey. Comment ça Audrey,
Céline,
pardon. Je confonds toujours les prénoms. Et alors, comme il y a du monde autour de cette table et dans ce studio, j'ai pris quelques petites notes pour les prénoms, mais j'ai oublié de noter ton prénom. Céline, comment ça va?
Ça va bien aujourd'hui. Émission spéciale, c'est
émission,
génial.
On est très heureux de faire cette émission aujourd'hui. Je rappelle que tu représentes les équipes relais Handicap Rare et notamment la communauté de pratique.
Épilepsie et Handicap Nord-Est, effectivement, pour le groupe Les Épilepsies, parlons-en. Et on avait l'intention, autour de la grande thématique loisirs, vie quotidienne, on avait envie de donner la parole aux jeunes, à l'équipe du centre d'observation et de cure pour enfants épileptiques.
Et vous allez entendre qu'ils ont beaucoup de choses à nous raconter. Une émission un peu spéciale, il y a plein de choses qu'on ne va pas faire comme d'habitude. D'habitude, on commence par un micro-trottoir, mais là, on s'est dit, mieux qu'un micro-trottoir, on a des jeunes qui vont pouvoir nous raconter leur vie. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant et on est très heureux de les accueillir. Je les présenterai dans un instant. Avant, je voudrais qu'on accueille autour de cette table et avec nous Agathe Dessa. Bonjour, Agathe.
Bonjour.
Alors, vous êtes épileptologue, je vais y arriver. C'est il y a des mots qui sont plus difficiles à prononcer, surtout à 10h du matin. Épileptologue au sein alors du COCE. Vous voulez bien nous dire ce que c'est le COCE?
Alors le COCE, comme a dit ma collègue Céline, effectivement c'est un centre d'observation et de cure pour enfants épileptiques, qui est en fait ce qu'on appelle un service médical de réadaptation. Donc c'est un établissement qui fonctionne un peu comme un hôpital, mais tout petit, parce qu'on accueille au maximum, grand maximum, 28 patients.
Ah oui.
Voilà. Et nous, notre spécificité, c'est de prendre en charge donc des enfants et des adolescents et des jeunes adultes épileptiques qui ont quand même des épilepsies assez sévères pour que ça gêne dans leur quotidien et qu'ils aient besoin de soins spécifiques, à la fois donc en réadaptation avec une ergothérapeute, une psychologue. On a un temps d'orthophoniste, mais c'est un petit peu compliqué en ce moment. On va avoir un temps de psychomotricienne.
D'accord.
Et donc, ce qu'on propose en particulier, et ce qui pour moi est une vraie plus-value de ce service, c'est aussi la possibilité de proposer une scolarité adaptée, donc à l'EREA, l'établissement régional d'enseignement adapté, qui est sur le site de Flavigny, où on se trouve aussi, et qui offre effectivement la possibilité d'une scolarisation du collège jusqu'au bac. Et il y a également la présence d'une école primaire adaptée. Donc en gros, toutes ces données-là, plus la présence de mes collègues infirmières, de mes collègues éducatrices,
qu'on va présenter également,
c'est une prise en charge donc globale, fixée sur les conséquences de l'épilepsie.
On va en reparler et vous nous raconterez en détail un petit peu plus tout ce que vous faites au quotidien. À vos côtés, on a le plaisir d'avoir Émilie. Bonjour Émilie.
Bonjour Thomas.
Vous êtes infirmière, vous aussi donc au COCE qui dépend donc de l'OHS, on le dit aussi, qui dépend de la filière épilepsie de l'OHS. Donc vous êtes infirmière là-bas.
Je suis infirmière là-bas depuis plusieurs années maintenant.
Ouais.
Et du coup, j'accompagne les jeunes dans toutes les activités, un peu le loisir aussi pendant les vacances.
On va évidemment parler loisirs, c'était la thématique qu'on avait choisie pour cette émission. Et puis également avec nous Myriam, bonjour Myriam.
Bonjour Thomas.
Vous êtes donc éducatrice spécialisée.
C'est ça, éducatrice spécialisée au COCE depuis plusieurs années aussi, comme Émilie.
Donc éducatrice spécialisée, ça consiste en quoi?
Alors moi j'accompagne les jeunes dans leur quotidien, tout au long de l'année, aussi bien dans le quotidien des activités que également dans la scolarité. Les devoirs, tout ce qui se passe sur l'internat, c'est ça.
Bien, et puis alors avec nous, on va les présenter, on va leur passer le micro. On va commencer par, je vais essayer de me souvenir des prénoms, mais Chloé. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Chloé, tu peux nous dire quel âge tu as?
J'ai 15 ans.
T'as 15 ans. Chloé, tu vas nous parler un petit peu de ta vie, ce que tu fais en général, pourquoi tu es au COCE et tout ce que tu découvres que tu peux faire alors qu'on t'a déjà dit ça tu peux pas le faire, tu vas nous en parler dans un instant. À côté de toi, Mathilde.
Bonjour.
Bonjour Mathilde, j'ai toujours du mal à retenir les prénoms. Mathilde, tu as quel âge?
J'ai 17 ans.
Donc toi aussi tu es au COCE?
Oui.
Et tu nous parleras tout à l'heure notamment d'une passion que tu as pour?
L'art.
L'art, on en parlera dans un instant. À côté de toi, comment tu t'appelles?
Mélissa.
Mélissa, tu as quel âge?
J'ai 14 ans.
La vie est belle, Mélissa?
Bah franchement, ça va.
Ouais, t'es aussi au COCE ?
Oui.
Très bien. Tu nous raconteras aussi tout à l'heure ton parcours, ce que tu aimes faire dans la vie. Et puis on verra ensemble tout ce qu'on t'a déjà dit que t'avais pas trop le droit de faire, mais que finalement aujourd'hui tu peux faire.
Oui.
D'accord. Et à tes côtés, Alex.
Bonjour.
Bonjour Alex, toi tu as quel âge ?
14 ans.
14 ans, moi j'avais noté 13. Tu t'es grandi un petit
non,
peu.
13 ans.
Il me semblait bien que tu t'es dégrandi très légèrement, Alex. Tu as 14 ans, 13 ans, maintenant je me trompe. Le COCE, toi tu y as passé un certain temps ?
Oui.
Et ça va être bientôt fini, si j'ai bien compris ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que je vais dans une autre école vers chez moi.
Et alors, pourquoi est-ce que tu vas dans une autre école vers chez toi ?
Parce que je veux faire un agriculteur plus tard et c'est une école spéciale pour ça.
D'accord. Et aujourd'hui, on m'a dit, on m'a soufflé que tu étais plutôt guéri.
Oui.
C'est ça. Bon, tu vas nous raconter tout à l'heure tout ce que tu aimes faire. Tu parles de l'agriculture. Je sais que tu as une passion toute particulière. On en parle dans un instant. D'accord ? Je vais me tourner vers vous à nouveau, Agathe, pour qu'on comprenne bien. Alors, si j'ai bien entendu ce que vous nous disiez tout à l'heure sur ce qu'est le COCE, le but du jeu, c'est quoi ? C'est donc d'adapter toutes les choses de la vie aux jeunes qui souffrent de troubles de l'épilepsie ?
C'est ça, on va établir effectivement un projet thérapeutique, un projet de prise en charge pour chaque patient en fonction des besoins. Et donc, pour y répondre, on va utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Et on va essayer de mobiliser ses besoins, enfin ses moyens pour répondre aux besoins, dans l'idée d'optimiser leurs compétences. Parce que c'est des jeunes qui ont des compétences, ils en ont plein. Elles sont parfois cachées, il faut parfois vraiment les stimuler, mais elles sont là. Et je trouve qu'effectivement, l'exemple d'Alex, il est beau. Parce qu'effectivement, Alex, on peut considérer guéri, puisqu'il ne fait plus de crise, il n'y a plus de traitement médicamenteux. Alors, humblement, est-ce qu'on l'a guéri nous-mêmes ? Non, clairement pas. C'est plein de facteurs à côté.
Ouais.
Mais je pense que, pour moi, il illustre en fait le rôle du COCE et le fait de l'amener où il veut aller, au plus proche de ce qu'il peut faire plus tard. Et c'est ça qui est
beau. Parce que le COCE, vous accueillez des enfants jusqu'à quel âge ?
En fait, on a un agrément théorique de la naissance jusqu'à la fin de vie. En pratique, on cible sur les enfants et les adolescents et on va les accompagner jusqu'à ce qu'il y ait un projet concret, soit scolaire, soit professionnel, qui s'établisse. Donc on peut par exemple accompagner des patients jusqu'à 20 ans, qui est l'âge de début d'embauche en ESAT, en établissement d'accompagnement par le travail. Donc on fait au cas par cas, comme là, le projet d'Alex.
D'Alex, par exemple, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
J'imagine, c'est toujours très réjouissant de voir un jeune comme Alex, par exemple, qui sort de chez vous.
C'est le but, en fait. On veut les mettre dehors, mais dans les meilleures conditions
c'est
possibles.
C'est ça. Donc vous avez compris, les trois autres, vous allez bientôt, on va vous pousser dehors aussi.
D'ailleurs, on en parle après.
On va en parler. Et chacun va nous expliquer un petit peu son parcours et ce qu'il a envie de faire. Cette émission, elle avait pour aussi vocation, et c'est ce qu'on va faire, de parler de toutes les loisirs. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, quand on traite du sujet des épilepsies, qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Alors comme dans beaucoup d'autres maladies d'ailleurs, on ne peut pas conduire par exemple quand on souffre de troubles de l'épilepsie. Et on s'est rendu compte quand on a préparé cette émission, et je le disais, c'est vrai que d'habitude on a un micro-trottoir, d'habitude on a un certain nombre de sujets qu'on propose. Mais cette fois-ci, on s'est rendu compte en discutant avec les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on leur a dit « ça vous ne pouvez pas faire ». Comment on gère l'interdit quand on accompagne ces jeunes ? Parce que l'idée, on l'a bien compris, c'est de les accompagner vers une vie la plus normale possible.
C'est ça. Ben, exactement la même chose. On va faire un point sur leur type de crise, parce qu'il existe de nombreuses crises d'épilepsie différentes, avec forcément des risques qui sont différents. Ça ne va pas être la même chose d'avoir quelqu'un qui va se figer, arrêter de bouger pendant 3-4 secondes, ou quelqu'un qui va devenir tourette, tomber par terre, se secouer partout. Ça va durer 3 minutes, 3 minutes 30, et après, il va être obligé de dormir pendant une demi-heure, en fait. Donc le risque, effectivement, il n'est pas du tout le même. Et pour autant, le patient qui va se figer, on va quand même faire attention quand il fait du vélo. Parce que mine de rien, le vélo, ça peut effectivement faire des cascades qui finissent mal. Mais en même temps, on ne va pas l'empêcher. Si on lui met un casque et qu'on lui met des coudières, des genouillères, qu'on prévoit le coup, qu'on lui dit « bah écoute, peut-être plutôt pas sur le béton, mais plutôt dans l'herbe ou sur du sable », ça ne pose pas de souci. Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est nous, on a la chance aussi d'être un petit établissement où les professionnels accompagnent les jeunes. Et donc, c'est dans ces moments-là où on va faire au cas par cas. Et après, on pourra donner des conseils aux familles, si besoin, pour que ça se continue aussi à la maison. Le jeu, c'est pas que ça soit que au COCE, mais de pouvoir dire, nous, on a fait comme ça, ça s'est bien passé. À vous de voir si c'est adaptable ou pas adaptable à domicile, en fait. Mais c'est vrai que là, je vais pas pouvoir aujourd'hui vous donner une recette magique pour tout le monde,
parce que
c'est vraiment au cas par cas.
Et c'est le cas aussi, parce que Vous avez parlé du vélo, par exemple, mais pour le cas d'Alex, qui est avec nous, lui va aller vers des métiers autour de l'agriculture. Il y a des métiers, quand même, sur lesquels, par exemple, vous allez aider à orienter des jeunes en fonction du type d'épilepsie dont ils souffrent, en disant, ça, peut-être, il vaut mieux pas. Ou alors, au contraire, vous dites, on va tout faire pour y arriver. Comment ça se passe?
Là, c'est compliqué. Et là, c'est là qu'effectivement, notre équipe vraiment pluridisciplinaire, avec l'expérience de mes collègues, apporte une vraie plus-value. C'est difficile de dire, autant il existe quelques lois. Il n'y en a pas beaucoup, mais par rapport à l'épilepsie, il existe quelques lois. La première loi essentielle, effectivement, c'est le permis de conduire. D'accord ? Donc là, il existe vraiment des lois sur le permis de conduire. Dans le travail, il en existe aussi. Parce qu'effectivement, par exemple, je pense à des métiers où on utilise, on conduit des véhicules, en fait. Effectivement, les porte-palettes, des choses comme ça, on imagine bien que là, s'il y a une crise à ce moment-là, ça peut impliquer matériellement, mais surtout d'autres collègues de travail. Donc il y a quelques lois, mais pas tant que ça. Après, il faut faire du concret. Et c'est vrai que nous, on travaille vraiment en équipe pluridisciplinaire avec mes collègues. Et c'est en ça qu'on a deux réunions par an systématiquement en équipe pluridisciplinaire avec les référents scolaires pour dire, où veut aller ce jeune? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est concrétisable ou pas? Si oui, avec quels moyens? Et on essaye de les y emmener au maximum. Parfois, on est contraint de dire le projet est démesuré et inadapté et ça ne pourra pas se faire. Dans ce cas-là, on cherche avec eux des alternatives qui leur conviennent aussi.
Bon alors Alex, toi, on va passer le micro à Alex. Toi, tu as donc une passion, tu me disais ça quand on s'est rencontrés la première fois, débordante pour les...
Pourquoi ? Tracteurs.
Les tracteurs. D'abord, pourquoi cette passion ? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, ça fait peut-être longtemps, mais qu'est-ce qui te passionne dans les tracteurs ?
Être dans les champs, dans la nature et... Et voilà.
Et donc, ton rêve, c'est de devenir agriculteur?
Oui.
Ok. Jusque-là, tu pensais que tu pourrais aller vers une école d'agriculture?
Non.
Alors, comment ça s'est passé, le chemin pour y arriver aujourd'hui?
Ma mère a vu une école vers chez moi, d'agriculture, et on a été la visiter en mars.
Ouais. Et puis?
Et puis là, on a donné le dossier d'inscription.
Ok. Vous l'avez accompagné, Alex, j'imagine, au niveau du COSE, dans ses démarches?
Oui, on l'a accompagné, bien sûr. Mais c'est plus là, pour le coup, un vrai travail familial, je dirais.
Ouais. C'est plus,
parce que c'était son choix et que du coup, ils se sont mobilisés pour concrétiser ce projet. Donc.
Alors, Alex, aujourd'hui, tu me disais, donc là, tu faisais déjà des courses de tracteurs, des rassemblements de tracteurs, c'est ça? Tu m'as dit ce week-end, par exemple, tu as fait quoi?
J'étais à la ferme près de chez moi.
Ah oui? Et t'as fait quoi?
J'ai fané, endainé, chargé une remorque.
Très bien. T'as déjà conduit un tracteur ou pas?
Oui.
Et t'aimes ça?
Ouais.
Ouais. Et par rapport au risque, justement, parce que on l'entend bien, Alex donc, souffre d'une épilepsie. On disait on peut pas avoir le permis de conduire, on peut pas le passer quand on souffre d'une crise d'épilepsie. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui fait qu'Alex va pouvoir le faire?
Parce qu'il répond aux critères de la loi. Alors, il n'est pas majeur. Hein,
donc, oui.
Voilà,
il a encore que 13 ans.
Le permis de conduire, je dis ça, je dis rien.
Oui.
Non, concrètement, la loi, elle dit que si on n'a pas souffert de crise d'épilepsie depuis plus d'un an, on peut effectivement conduire un véhicule. Alors après, là, je vous la fais très générale. Si vous voulez, je vous invite à aller visiter Légifrance. C'est un vrai bonheur pour les règles précises. Mais en fait, c'est ça. Concrètement, en tant qu'épileptologue, on a un patient en face de nous en consultation ou en suivi. On va se dire, quel métier vous faites, où vous voulez faire, de quand date votre dernière crise, quel type de crise, et on va voir dans quelle case on rentre, entre guillemets, et après accompagner le patient sur ce chemin-là en disant écoute, 9 mois sans crise, là t'es bien sous ce traitement-là, ça peut le faire, on peut continuer comme ça, quoi. Donc c'est au cas par cas, mais là concrètement, pas de crise depuis bien plus d'un an.
Ouais, c'est ça, donc là on est bien parti.
C'est ok pour Alex.
Bon Alex, bientôt, donc c'est toi qui t'occuperas de nos légumes, de nos fruits?
Pas tout de suite.
Tu préfères quoi, l'agriculture, sur tout ce qui est végétal ou plutôt les animaux?
Les deux.
Bon, et un jour, tu auras une grande ferme à toi?
J'aimerais bien.
Tu m'inviteras à monter sur le tracteur?
peut-être.
Bon, merci d'être avec nous. Restez là. Ce que je vous propose, on va faire une première pause musicale. On va écouter l'un des titres que vous avez choisi. J'hésite. Vous avez choisi plein de super musiques. Je ne sais pas par laquelle commencer. Vous m'avez proposé Tal, Nuit Incolore, Vianney, Indila, Ben l'Oncle Soul. J'hésite. Lequel on choisit? Allez, on fait Tal pour commencer. Qui voulait écouter Tal? Passe voir le micro, s'il te plaît, Luna, à Mélissa. Je dis pas de bêtises. Mélissa.
Oui.
T'as voulu écouter Tal?
Oui.
Pourquoi cette chanson?
Excusez-moi. Quand j'étais petite, ma mère n'aimait pas que j'écoute de la musique. Pour elle, écouter de la musique, c'était un peu trop fort pour l'épilepsie.
D'accord.
Elle avait peur que ça déclenche une crise à cause du son et tout ça. Du coup, j'écoutais de la musique avec mon père et j'ai trouvé ça. Et ses paroles m'ont vraiment touchée. Du coup, j'ai commencé à écouter plusieurs fois cette musique, Le sens de la vie. Et franchement, ce qu'elle dit, c'est vrai. Moi, ça m'a inspiré. Du coup, j'écoute encore aujourd'hui. Et franchement, j'aimerais vous le faire écouter pour voir à quoi vous pensez. Et franchement, ça m'a vraiment inspiré. Et du coup, j'écoute encore aujourd'hui.
Eh bien, on va l'écouter ensemble.
Ok, ça me va très bien.
Merci de nous offrir ce titre. Tal, Le sens de la vie, c'est ce qu'on écoute maintenant dans l'émission. Et puis c'est tout, on est ensemble jusqu'à 11h et en direct.
J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai. Peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai.
Heures sur RCN, et puis c'est tout.
On est en direct pour une émission spéciale qu'on est très heureux de faire ensemble aujourd'hui avec notamment Alex, Mélissa, Mathilde et Chloé qui tous les quatre ont souffert de troubles de l'épilepsie, qui sont accompagnés par le COSET et aujourd'hui on parle notamment des loisirs. Mélissa, il y a quelques secondes avant que nous écoutions Tal, tu nous disais, voilà, j'écoutais beaucoup cette chanson avec mon papa. Oui. Parce que ma maman voulait pas trop que j'écoute de la musique.
C'est ça.
À cause de l'épilepsie. Tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus?
Bah, elle avait peur que ça déclenchait des crises à cause. Enfin, elle aime bien mettre la musique très fort parce que bah, elle aime beaucoup la musique. Du coup, quand elle voulait écouter la musique, elle me disait dans la chambre parce qu'elle avait peur que ça déclenchait une crise. Mm-hmm. Du coup, je montais, mais j'écoutais de la musique aussi parce que je suis passionnée aussi par la musique. Ça m'aide aussi pour me calmer quand je suis en stress ou des trucs comme ça. Du coup, bah, j'écoutais en cachette dans ma chambre, j'ai laissé la porte ouverte et puis j'écoutais aussi avec elle.
Avec ta maman?
C'est ça.
Et ton papa, il te faisait écouter la musique, lui?
Bah, il me laissait parce qu'il remarquait que je faisais pas de cris en écoutant de la musique et puis il me laissait écouter.
Tu disais ta maman, c'est parce qu'elle écoutait fort la musique, elle avait peur que tu fasses des crises.
C'est ça.
Tu écoutes la musique fort ou pas fort?
Bah moi, pas très fort parce que... Enfin, quand c'est trop fort, j'avoue que j'ai mal à la tête après, mais j'écoute des fois très fort, mais pas tout le temps. Mmh.
C'est intéressant, Agathe. Je rappelle que vous êtes épileptologue.
Docteur
de voilà. Au sein du COSET dans la filière épilepsie de l'OHS. Là, Mélissa, elle nous livre quand même quelque chose qui est assez intéressant, je trouve. C'est de dire, ma maman me dit, si la musique est trop forte, je vais faire des crises. Et moi, à l'inverse, quand j'écoute de la musique, ça me fait du bien.
Et bien, même concept que juste avant, chaque cas est différent, chaque personne est différente. Mmh. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe des facteurs déclenchants de crise d'épilepsie. Pourquoi? Parce que, ben voilà, ça, c'est une question d'excitation des neurones dans le cerveau. Donc, il y a effectivement ce qu'on perçoit au niveau sensoriel qui peut déclencher des crises d'épilepsie. Il y a aussi des facteurs environnementaux autour de ce qui se passe. Par exemple, nous, avec notre expérience des patients du COSET, les facteurs déclenchants ou favorisants, déjà, c'est surtout la fatigue, le stress et les émotions fortes. Alors, paradoxalement, les émotions fortes, elles peuvent être aussi positives. Une grande joie, ça peut aussi générer quand même une crise. Et c'est vrai que les facteurs déclenchants peuvent être des stimulus, des stimulations sensorielles, comme beaucoup de bruit, c'est pas le plus fréquent, mais ça peut arriver. Ou des stimulations visuelles, effectivement, c'est rare. Hein. On a ce cliché de nombreuses vidéos sur la télé, etc., de marquer attention aux patients épileptiques. Ouais. C'est quand même une grande minorité, c'est excessivement rare. Mmh. Et c'était vrai avec les anciennes télés
cathodiques.
Maintenant, les LED, ça pose beaucoup moins de soucis. Mmh. Ça peut quand même exister. Hein. On sait pas, ça reste à la marge, mais ça peut encore exister. Ça peut être le bruit, ça peut être d'autres stimulations sensorielles, effectivement.
Donc là, pour le cas de Mélissa, par exemple, la musique lui fait plutôt du bien à partir du moment où c'est pas trop fort, si je comprends bien. Parce que Mélissa, tu dis ça te fait mal à la tête quand t'écoutes trop fort, hein, c'est ça?
Oui, quand c'est trop fort, j'avoue que j'ai mal à la tête, mais ça me relaxe. Quand c'est pas très fort, ça me relaxe parce que... Puis surtout les musiques que j'adore, ça me relaxe parce que ça me rappelle des bons souvenirs aussi.
Ouais.
Du coup, bah, j'aime bien écouter de la musique.
On parlait de musique fort et il y a une autre question, c'est-à-dire que Mélissa, aujourd'hui, tu as 14 ans.
C'est ça.
Un jour, Mélissa, elle aura peut-être 18, enfin, elle aura 18, 19 ans, c'est sûr, mais peut-être qu'elle aura envie d'aller en boîte de nuit, par exemple. Est-ce que ça veut dire que elle peut y aller, qu'elle doit éviter? Comment ça se gère, ça?
Ben pareil, ça se gère au cas par cas. Elle se connaît déjà très bien à 14 ans, ce qui est admirable. Bravo Mélissa.
C'est vrai.
Et ben oui, effectivement.
T'as l'air impressionnée, mais oui, tu te connais bien.
C'est vrai, je ne connais pas vraiment. Enfin, je suis un peu assez choquée que on me dise ça en fait.
Bah si, parce que tu vois, tu nous dis toi-même, en fait, quand c'est trop fort, ça me donne mal à la tête.
C'est ça.
Et ça me détend, ça me fait du bien quand j'écoute de la musique à l'inverse.
Exact.
Donc tu vois, tu te connais vraiment bien pour le coup. En tout cas, sur ce point-là.
Après, même constat, hein, on adapte. Donc si effectivement c'est le bruit qui est trop fort, mais qu'on a quand même envie de sortir avec ses copains, ses copines en boîte de nuit, bah, on peut mettre des bouchons protecteurs, du coup ça atténue le bruit. Par rapport au fait, effectivement, des stimulations lumineuses, là c'est sûr que la boîte de nuit où il fait noir, qu'il y a des lasers, des lumières brusques, stroboscope et compagnie, clairement si... On a la possibilité, hein, avec un électroencéphalogramme, de savoir si on est sensible à la lumière ou pas. Il y a un test qui est fait avec des lumières.
Okay.
Donc, si on sait qu'on est sensible, on va plutôt dire, bah non, pas top, quoi. Il vaut mieux, effectivement.
Mais on peut l'anticiper. Ça aussi, c'est de l'adaptation, du coup.
Ça, on peut l'anticiper. Et puis après, c'est surtout les patients. C'est eux qui ont les connaissances, qui ont les compétences pour nous dire, ah non, ça va pas le faire. Parce que la dernière fois, ça m'est arrivé de rentrer dans une pièce sombre et que la lumière s'allume brutalement. Bim, j'ai fait une crise. Donc, du coup, en fait, on va juste anticiper ça et apporter les adaptations si c'est possible.
et sinon dire bah désolé, ça il faut éviter, mais peut-être que dans ce cas-là, trouver d'autres soirées où il n'y ait pas les lumières vives, bah, c'est ok.
Oui, parce qu'il peut y avoir des balles, des concerts où les lumières sont plutôt sur la scène et du coup moins gênantes, ou en extérieur, absolument.
Voilà, trouver ce qui peut.
Puis je retiens ce que vous dites, finalement, le patient est l'expert de sa maladie.
Complètement.
Mathilde, tu voulais réagir?
Moi, c'est un peu l'inverse. Quand il y a trop de bruit d'un coup ou en continu, ça me fait, comment dire, ça, c'est comme si ça résonnait dans ma tête et ça me fait pas du bien, quoi. Mmh.
Donc pour toi, la musique, encore plus si c'est fort, faut éviter.
Voilà, c'est ça.
Donc là, on comprend vraiment cette notion de cas par cas. Très bien. Je reviens vers toi, Mélissa. Mélissa, je crois que dans tes passions, en tout cas dans les choses que tu aimes particulièrement, il y a...
L'équitation.
Et alors sur l'équitation, quand on s'est vu pour préparer, tu m'as dit, oh là là, on m'a dit qu'il fallait pas trop si je faisais une crise sur le cheval, etc. C'est ça?
C'est ça.
Et alors t'en fais quand même?
J'en fais quand même. J'ai passé mon galop 1 déjà. Je suis assez fière de ça d'ailleurs.
Tu peux?
Parce que j'ai pris déjà quelques mois à réviser, du coup je suis fière d'avoir...
Tu peux nous expliquer ce que c'est ce galop 1?
C'est comme un diplôme pour voir mes connaissances.
Ouais.
Elle demandait les parties du corps, de la selle, tout ça. Et c'était assez compliqué pour réviser parce que j'avoue qu'il y avait pas mal de choses à apprendre. Mm-hmm. Mais j'étais à fond dedans, je révisais tous les soirs, même si j'étais en vacances. Je voulais vraiment réussir mon galop 1. Du coup, j'étais à fond et puis j'ai réussi. Je suis même très fière de moi. Pour,
tu peux.
Ouais.
Tu sais, j'ai envie qu'on t'applaudisse pour ce galop 1.
Merci.
C'est très chouette.
Merci.
Et t'as bien raison d'être fière de toi. Qui est-ce qui te disait qu'il ne faut pas que tu fasses du cheval?
Même au foyer, les éducateurs avaient peur que je trompe du cheval en faisant, si je fais une crise dessus. Et puis ma mère aussi, mes parents voulaient pas trop, ils avaient peur que je trompe du cheval en faisant une crise dessus. Et puis même ma prof avait peur que d'un coup je fais une crise, mais elle m'a dit qu'on peut toujours essayer. Et puis j'ai commencé et ça me plaît. Franchement, c'est une passion vraiment incroyable. J'aime vraiment faire du cheval. Et puis ma sœur aussi voulait vraiment faire. Là, elle n'ose plus le faire parce que elle a aussi peur qu'elle tombe. J'ai dit que t'es pas malade, du coup. C'est ça, du coup, elle a peur d'en faire aussi. J'ai dit que lâche-toi, quoi. Si t'aimes le cheval, va en faire. Mais elle a peur pour moi et puis pour elle aussi.
Comment tu t'es organisée pour pouvoir faire du cheval sans te sentir en danger?
Un moment, j'en faisais plus pendant quelques mois. Je me suis dit que Mélissa va en faire, ça fait un moment que t'en fais plus. Du coup, lâche-toi et t'amuser. Depuis que je suis petite, j'en fais aussi pendant les fêtes foraines, tout ça. Du coup, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Et à la maison, ils ne voulaient pas les parents. J'ai commencé au foyer à en faire. Ils m'ont, ils n'ont pas dit que c'est interdit. Ils m'ont dit qu'on pourra essayer. Du coup, en sortie, ils m'ont emmené voir la ferme, tout ça. Et j'ai vraiment apprécié ces moments-là. Du coup, ils m'ont inscrit et puis j'ai commencé à en faire et ça m'a plu.
Alors, tu prends des précautions particulières avant de monter sur un cheval ou tu fais comme tout le monde? T'as une bombe, c'est obligatoire?
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets ou pas?
Non, je mets que ça. Après, il n'y a que je mets que ça.
Alors je vais me tourner si tu veux bien vers le docteur qui va, parce que j'ai une question du coup à lui poser, peut-être aussi vers Émilie et Myriam qui t'accompagnent aussi au sein du COSE. D'abord, on voit bien que c'est une pratique qui pourrait paraître à risque, le cheval, puisqu'en plus on tombe de haut. D'abord, c'est à risque même quand on ne souffre pas d'épilepsie. Mélissa nous raconte son histoire et aujourd'hui elle pratique le cheval, elle a même son galop 1. Qu'est-ce qu'on fait pour adapter? Quel conseil vous donnez si, comme Mélissa, on souffre d'épilepsie mais qu'on a vraiment envie de pratiquer ce sport?
Moi, le mot que je retiens de tes paroles, Mélissa, c'est la peur. En fait, je pense qu'il faut déjà rationaliser la peur. C'est-à-dire, concrètement, quand quelqu'un dit non, tu ne peux pas faire ça parce que tu risques de, ok, on prend un papier et on écrit. C'est quoi le risque? C'est quoi exactement le risque? Ok, tu risques de tomber. Très bien. Question à cheval. Qu'est-ce qui différencie un patient épileptique qui tombe d'un patient non épileptique qui tombe? Réponse, pas grand-chose. Il y en a peut-être un qui va tomber tout raide, l'autre qui va tomber tout mou, mais ça ne changera rien.
Il va tomber quand même.
Voilà. Donc effectivement, équipement de protection de la même façon. Ça casse un bras, ça casse une jambe de la même façon qu'on soit épileptique
ou pas. Bien sûr.
Après, c'est la vigilance. Si on est vigilant et qu'on le sait, eh ben ok, on va pas te laisser partir toute seule pour deux heures de balade en disant bon ben dans deux heures salut. Voilà, c'est de la vigilance, c'est de l'attention qui est portée. Et puis voilà, il y a un autre élément aussi que moi j'ai un petit peu constaté effectivement des patients, c'est que parfois quand ils font une activité qui leur plaise, ils sont très concentrés sur ce qu'il faut. Et quand on est très concentré, on sait que c'est un facteur qui éloigne un peu les crises. Alors, c'est pas, à ma connaissance, scientifiquement prouvé, mais la réalité du quotidien, elle est là. Et quand les jeunes, ils se font plaisir, eh ben, ils crisent moins. Donc, il faut aussi prendre ça en compte.
Tu as déjà fait une crise à cheval, Mélissa, ou pas?
Non, jamais.
T'as jamais fait de crise. Il y a Alex qui voulait réagir. Alex, prends le micro et réagis à ce que tu entends. Dis-nous.
Alors, avant, au Cossi, on faisait du cheval avec une prof.
Ouais.
Et on était encore épileptiques, moi et Chloé. Il n'y avait que eux, parce que les autres sont partis du Cossé. Et on tombait pas forcément. Chloé, qui faisait beaucoup de crises, elle tombait pas.
Pas plus que n'importe qui d'autre, en fait.
Ouais.
Et toi, t'as déjà fait une crise sur le cheval?
Non.
Non plus. Et t'as aimé faire du cheval?
Oui.
Donc comme quoi, effectivement, il ne faut pas s'interdire. Moi, j'aime bien ce que vous dites, docteur, c'est quand vous nous dites il faut noter ce qui fait peur et comparer, en fait, se dire une chute à cheval, qu'on soit épileptique ou pas, de toute manière, c'est une chute avec les risques que ça
comporte. Est-ce que c'est ça, finalement? C'est une évaluation du risque.
Ouais, tout à fait.
Alors, ça fait un peu mécanique, ce que je dis là, mais effectivement, c'est ça, c'est évaluer le risque. Quel est le pire qui puisse arriver?
Ouais.
Ok. Qu'est-ce qui peut plus fréquemment arriver? Et dans ces deux circonstances-là, eh ben, quels moyens on peut faire pour apporter de la prévention et faire en sorte que ça n'arrive pas, tout simplement.
Tout à fait. Alors, vous disiez, ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais est-ce que les animaux peuvent quand même effectivement jouer un rôle, le contact même avec l'animal, en dehors du fait de la concentration qu'on doit y mettre?
Bien sûr, oui.
Donc, ça peut être très positif, en fait. On peut même encourager, au contraire, aller vers, vers ce type de pratique et vers ces animaux-là.
Tout à fait.
Mélissa, il y avait d'autres choses, je crois, que tes parents te disaient, oh là là, fais attention. C'est toi, je crois. Non, c'est toi ou c'est peut-être Mathilde? Qu'est-ce qui nous racontait l'histoire de rester tout seul à la maison? C'était Mathilde. Alors, on va passer le micro à Mathilde, du coup. Mathilde, toi, si on... D'abord, ta passion. Je veux bien que tu nous expliques c'est quoi ta passion.
Ma passion, c'est l'art.
Ouais.
Et le problème, c'est que comme je prends des médicaments qui me font voir double, il y a des moments où je ne peux plus dessiner ou alors lire ou alors...
Parle bien dans le micro.
Ou alors lire ou alors tout ce que je veux parce que je vois double.
D'accord.
À cause des médicaments.
Ok. Mais donc tu pratiques l'art et on va en reparler. Je veux revenir sur cette notion d'interdit. Donc tu nous disais, depuis que je suis petite, ma maman ne voulait pas que...
Depuis que je suis petite, ma mère, elle ne voulait pas que je reste seule à la maison. Et elle ne voulait pas que je sorte dehors.
D'accord.
Et depuis quelques temps, depuis un petit moment, elle me laisse toute seule, à la maison. Elle m'a même laissé plusieurs jours toute seule. Et elle me laisse même promener mon chien dehors. J'ai même fait une promenade de 40 minutes toute seule. Et elle m'a laissé faire plusieurs choses sans qu'elle me dise rien. Et je trouve que c'est... Elle me laisse grandir seule, quoi. Grandir dans ma... Je sais pas si ça se dit grandir dans ma maladie, mais...
Pourquoi pas. Si, tu as raison de le dire. C'est-à-dire que tu apprends petit à petit à vivre avec.
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il en est de cet interdit, de cette question? C'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent. Laisser seul quelqu'un qui souffre d'une épilepsie.
C'est compliqué, c'est super compliqué. Après, je trouve que les mots sont très justes de Mathilde de dire elle est grande ado maintenant et donc il faut qu'elle apprenne à vivre avec sa maladie parce que tu l'auras encore à l'âge adulte, Mathilde. Donc effectivement, finalement... T'apprends avec la sécurité de tes parents qui te disent je sais où tu vas, pendant combien de temps, etc. Tu apprends à tester tes limites et à savoir jusqu'où tu peux aller en sécurité, en fait. Et c'est ça. Le piège, il est là. Il est qu'effectivement, sur le rester seul, on a tellement peur. Et il ne faut pas oublier, en tout cas, nous, les patients qu'on accueille, ils ont souvent commencé leur épilepsie tôt ou de manière brutale, avec une angoisse de mort pour les parents. Voir son enfant faire une crise sévère ou longue, forcément, ça traumatise tout le monde, bien sûr le jeune, mais aussi sa famille. Donc du coup, c'est tout à fait normal d'avoir cet élan de surprotection. Et pour autant, eh ben, il faut lutter contre ça pour permettre à ces ados de vivre leur vie du mieux possible avec le minimum de garanties pour leur sécurité, bien sûr.
Le maximum de garanties.
Voilà, ouais. C'est ça. Mais de toute façon, de la même façon qu'un ado non épileptique, on ne pourra pas voir tous les dangers, on ne pourra sûr. Pas tout empêcher. Donc il faut trouver le juste milieu, cette fameuse balance de « bah ouais, promener le chien pendant 40 minutes, pour Mathilde, ça me semble tout à fait cohérent par rapport à ce type de crise, son épilepsie et le fait que ben voilà, elle a son portable, maman le portable à la maison, elle sait qu'elle met tant de temps pour promener le chien, elle n'arrive pas, elle appelle, enfin voilà, il y a des garde-fous.
On minimise les risques, mais globalement, ouais. Enfin, je veux dire, tout le monde vit avec du risque de toute manière, n'importe qui peut se faire renverser, qu'on soit épileptique ou pas. Ce qui compte effectivement, c'est d'avoir effectivement quelques garanties. Je vous propose, avant qu'on parle d'art avec, alors on va reparler avec Mathilde et Mélissa d'art, parce que je crois que vous avez notamment un projet que vous avez démarré toutes les deux ensemble, je vous propose qu'on fasse une deuxième qu'on écoute un deuxième titre, une deuxième chanson. Je sais plus, qu'est-ce qu'on avait ? Est-ce que vous avez une envie particulière, les amis ? Je suis fou de Vianney. On écoute Je suis fou de Vianney. Qu'est-ce qu'il avait choisi ? C'était toi ?
C'était Alex.
Alex, tu nous expliques pourquoi cette chanson ?
Parce que tu l'aimes bien.
Eh bien, on écoute Je suis fou de Vianney avec NG Girac et on revient dans un instant. On est toujours en direct dans une émission spéciale et qu'on est très heureux de vivre ensemble dans Et puis c'est tous jusqu'à 11h sur RCN.
Certains pensaient qu'ils étaient seuls, abandonnés là sur le sol. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Certains voudraient qu'on se déchire pour des billets, pour un empire. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Et toi? Troquer le jeu contre le nous, j'y donnerais le monde au sans le sou. Ici bas, tu es fou. Et toi, qui tends la main vers celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout. Si pour ça, tu es fou. Je suis fou.
Pensaient qu'ils dérangeaient, trop différents, trop à côté. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là.
Et oublie les gens qui nous séparent, il est temps qu'on se répare, que tous les fous se préparent sur la ligne de départ. Parlez pas de complot, et l'autre il l'abandonne. On va déjà se changer soi, oh là là.
Et toi, qui a trouvé je contre le nous, qui donnerait le monde sans le sou. Ici bas, tu es fou. Et toi, qui tend la main vers celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout. Si pour ça, tu es fou. Je suis fou.
Contre le nous,
qui donnerait le monde au sans le sou.
Ici bas, tu es fou.
Et toi, qui tends la main vers celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout.
Si pour ça, tu es fou. Je suis fou.
On va se changer soi, on va se changer.
RCN. Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et une émission spéciale ce matin qui passe à mon goût beaucoup trop vite avec Alex, Mélissa, Mathilde et Chloé. Tous quatre, vous venez avec le cossé de l'OHS de Flavigny nous raconter votre vie de patient qui souffrait d'un trouble de l'épilepsie. Et on parle notamment des loisirs, de tout ce que vous faites en général, où on vous avait dit ça, vous pourrez peut-être pas trop faire et que finalement vous arrivez à faire. Mathilde, avant de revenir sur peut-être les sports, et on parlera tout à l'heure de natation, j'aimerais bien qu'on évoque ce sujet-là, de la piscine, mais Mathilde, je voudrais qu'on revienne sur l'art. Toi, tu nous disais, j'ai un petit souci, c'est qu'avec les médicaments que je prends, je vois double. Mais ça n'empêche que tu fais pas mal de choses d'un point de vue artistique. Oui. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu produis, ce que tu fais, avant de lire, dans un instant, tu vas nous lire un poème que tu as écrit, mais je veux bien que tu nous expliques un petit peu ce que tu pratiques aujourd'hui dans l'art.
Ben, je fais par exemple des poèmes,
ouais.
Ou alors des chansons, ou des histoires, des romans.
D'accord. Et je crois savoir... qu'en ce moment, depuis hier,
ah oui.
Avec ouais. Mélissa.
Avec Mélissa, on a écrit une chanson. Oh, une. on a
bientôt la chanson qu'on passera sur RCN.
Une histoire. Une histoire.
Ouais.
Qui parle d'un délire qu'on a eu toutes les deux.
Et c'était quoi ce délire? On peut savoir.
Alors en gros, Mathilde et moi, on a un délire. Pardon. On a, c'est comme un jeu, on a un délire, on parle comme ça, Ovid, en fait, on imagine des personnages en face de ouais. nous. Et puis dans le jeu, Mathilde et moi, on est sœurs, on imagine des petits frères, des petites sœurs aussi. Et puis...
on est voyantes aussi.
On est sorcières aussi. On a un délire incroyable, c'est comme un jeu. Et puis on avait l'idée hier soir de faire une BD, enfin d'écrire notre histoire comme un livre.
Le but, en gros, c'est qu'on doit tuer notre père.
C'est ça.
D'accord. Pas pour de vrai, hein, rassurez-moi.
Non, pas du tout. Dans l'histoire, notre père... En gros, dans l'histoire, les étoiles nous procurent de la magie.
Ouais.
On n'est pas sur Terre, on est dans une planète qui s'appelle Ophénia.
Ok.
Et les étoiles nous procurent de la magie. Les étoiles, quand elles sont pas là, du coup, on n'a pas de magie. Du coup, on est un peu en danger. Et notre père a kidnappé notre petit frère pour prendre son étoile. C'est l'étoile, c'est comme notre cœur. Et il va la prendre pour... du coup, après, notre petit frère, il sera mort. Et lui, il prend la puissance de l'étoile. Et il va nous tuer, en gros. Du D'accord. coup, on essaie de le tuer pour sauver notre petit frère et également notre petite sœur. C'est un délire assez compliqué, mais c'est génial. On se comprend.
Alors, mais j'espère que vous nous le ferez comprendre au travers de la bande dessinée que vous êtes en train de faire. Qui fait quoi dans la bande dessinée?
Alors, moi, j'écris.
Ouais, Mathilde.
Et elle dessine.
Et toi, tu c'est dessines. Ça. C'est génial. Mais j'espère que vous viendrez nous présenter cette bande dessinée ici sur RCN, quand elle sera faite.
Ça va prendre un peu de temps, mais...
Ouais, mais je compte sur vous.
On serait contente de venir expliquer l'histoire, de vous la lire, tout ça.
Et vous serez les bienvenus.
C'est pas une bande dessinée, je crois qu'on l'a mal dit, c'est une histoire. Une,
oui.
Une histoire, gros, c'est écrit, mais on part quelques pages, on fait des petits dessins.
Ouais, d'accord, c'est ça. Donc c'est, ok, c'est une histoire illustrée.
Voilà, c'est ça.
Eh bien, on sera ravis de vous accueillir pour que vous nous la présentiez.
Bien sûr.
Mathilde, alors je sais aussi que tu as écrit un poème, tu peux nous expliquer pour qui, pourquoi?
Alors cette année, c'est les 50 ans du cossé.
Ouais.
Et j'ai écrit un poème pour ça.
Très bien, tu peux nous le lire?
Tant de temps passé, mais aucun enfant ne s'est ennuyé, et tant de gens sauvés, cela grâce au cossé. Toujours debout depuis 50 ans, il n'a pas bougé d'un clou depuis tout ce temps. Tant de personnes à l'intérieur, à qui tu procures du bonheur. Joyeux anniversaire, petit établissement, sois content d'avoir 50 ans. Toi qui protèges, rassures, câlines, regarde tout ce que tu as accompli. Avec un grand sourire, je te remercie.
Bravo Mathilde,
c'est magnifique.
Bravo Mathilde.
Bien sûr, quand je parle de l'établissement, je parle des éduques, des infirmières ouais. et tous les adultes, quoi.
Myriam, Émilie, quand on entend ce poème, ça fait quoi? C'est ça. Quand on le travaille au quotidien, parce que c'est votre travail, mais j'imagine qu'il y a une part humaine qui est tellement importante. Alors quand on entend cette réponse...
Ça fait chaud au cœur. Hein.
Oui, ça touche beaucoup. Après, c'est vrai que... On est vraiment heureux de les voir grandir et puis de les voir s'épanouir surtout.
Mmh. Et cette histoire, vous allez la lire aussi, ce qu'elles sont en train d'écrire.
Ah bah oui, 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 on va la lire.
Vous lui ferez lire ou pas?
Ah bah ils vont nous forcer même.
C'est important, on sent que c'est important, en tout cas pour toi Mathilde, on l'entend dans ce poème. Le cossé, il joue un rôle hyper important. Tu me disais tout à l'heure en antenne, toi, l'épilepsie à l'arrivée, tu avais...
Bah, comment dire, quand je suis... quand j'ai avant le cossé, j'étais un peu comme une enfant.
Mais la première fois que tu as eu une crise d'épilepsie, t'avais quel âge?
J'avais 9 ans.
9 ans. Donc pour tes parents, c'était quelque chose d'évidemment très violent.
Très violent, ils étaient...
Parle bien dans le micro si tu veux. Ah,
ouais. Ils étaient... comment ça s'appelle? Ils étaient un peu sous choc.
Ouais.
Et après, ils m'ont beaucoup materné. Ils me protégeaient beaucoup.
D'accord.
Et quand je suis arrivée... quand je suis arrivée...
Au Cossé,
j'ai commencé à grandir.
Ouais.
Et ils ont commencé mes parents ont commencé eux aussi à me laisser grandir de plus en plus.
C'est important du coup d'avoir un lieu comme le Cossé, Agathe.
Bah oui, effectivement, c'est un établissement qui est assez unique, hein, parce que quand même, ce type d'établissement en France, ça se compte. Il y a pas assez de doigts sur une main, en fait, ouais. Pour compter. Après, voilà, c'est des histoires de statut administratif, on s'en fiche, mais globalement, dans l'accompagnement de ces jeunes épileptiques, c'est assez rare, et c'est vrai que nous, on a des patients qui viennent du très grand quart nord-est de la France, hein. Ils peuvent parfois faire jusqu'à 3h15 de route pour venir jusqu'à chez nous, parce qu'on est une structure assez, assez atypique, et qui répond effectivement aux besoins, et c'est vrai que Mathilde, sa première crise, ça a été une crise très sévère, très très longue, où ça a été directement à l'hôpital. Donc effectivement, c'était assez traumatisant, quoi.
Je voudrais revenir sur cette notion du médicament qui lui donne des troubles de la vision, quelque part. Ça veut dire, du coup, qu'il y a des choses qui sont compliquées pour Mathilde. Ouais.
C'est ça.
Et alors, comment on adapte les choses quand...
Alors, honnêtement, avec les épilepsies assez complexes, on a toujours la balance entre le bénéfice et le risque. Là, c'est effectivement les effets secondaires qui peuvent être quand même sérieusement invalidants. Donc, voire double, c'est quand même pas terrible au quotidien. Il y a souvent de la fatigue qui est générée par les médicaments. Parfois, en plus, il y a des interactions entre médicaments, donc ils augmentent un peu les effets secondaires des autres. Et en même temps... ça permet de diminuer quand même la fréquence des crises ou la durée des crises ou la complexité des crises. Donc il faut trouver ce juste équilibre entre gagner sur les crises sans trop gêner dans le quotidien, sachant que, de ce que nous racontent les patients, finalement ce qui compte, c'est pas la fréquence des crises. Ce qui compte, c'est leur qualité de vie. Donc il faut aussi entendre ça et dire, bah, ok, on va peut-être baisser un tout petit peu le médicament. Il y aura un peu plus de crises, mais...
Ouais.
Tu verras moins double, ou tu arriveras mieux, ou tu seras plus réveillé le matin pour aller à l'école et pour apprendre, en fait. Donc, c'est encore une fois du cas par cas.
Très bien. Mathilde, l'équilibre, ça commence à se faire ou dis-nous tout? L'équilibre entre les effets secondaires du médicament et les crises?
Bah, c'est pareil depuis... comment dire? Je vois double depuis le début de...
De l'épilepsie
de
pour toi?
De l'épilepsie, parce que j'ai... Les médicaments qui me font voir double... Si j'ai bien compris, c'est le Vimpat avec un mélange de Vimpat et d'un autre, si je ne me trompe pas. Et c'est les deux que j'ai depuis le début. Donc
tu vis avec depuis le début des épilepsies. Ok, merci à toi Mathilde. Je propose qu'on passe la parole à Chloé. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Je rappelle, tu as 15 ans. Oui. C'est quoi tes passions à toi Chloé?
J'aime dessiner.
D'accord. Donc toi aussi, l'art, quelque chose qui te parle? Et quoi d'autre? Le sport un peu?
Un peu.
Tu fais quoi comme sport? Parle bien dans le micro.
Je fais du tir à l'arc, je suis papy.
Du tir à l'arc,
du tir à l'arc, je suis papy.
D'accord, ok. D'autres sports aussi?
Non.
Bon, le tir à l'arc, c'est un sport... Qu'est-ce qu'on en pense? C'est vrai, c'est le tir à l'arc, voilà, ça fait partie des loisirs, des sports. Qu'est-ce que par rapport à l'épilepsie, c'est quelque chose qui pose souci, pas de souci?
On s'éloigne de la cible, hein, ça paraît assez logique en fait, mais...
À part ça, on prend pas grand risque.
Non, à part ça, voilà. Enfin,
Nous, on est vraiment avec l'établissement, l'expérience qu'on a avec les jeunes, c'est ça, quoi. C'est faut essayer, faut y aller. Mmh. Et puis, on voit ce qui se passe. Évidemment, ouais, on va pas leur donner la flèche à bout super acérée. Mmh. On va effectivement mettre personne de l'autre côté.
Oui, évidemment, oui.
Voilà. Conseil de base.
Je déconseille à quiconque, quelle que soit la personne qui tire à l'arc, d'être en face de la, à côté de la cible.
Mmh. On est reparti sur quelle différence entre un patient épileptique et pas épileptique.
C'est ça, en fait. Hein, on est vraiment là-dessus. Ouais. Il y a des choses qu'on t'a interdites ou qu'on t'a déconseillé de faire, peut-être quand tu étais plus jeune ou encore aujourd'hui. Et que malgré tout, tu fais ou que tu as envie de faire?
Bah, on m'a interdit l'escalade.
Ah! Et alors, est-ce que tu en fais ou pas?
Bah, j'en ai fait avec le COSE pendant les vacances.
Et alors, justement. Alors, le COSE, ce qui est génial, c'est que vous faites plein de choses différentes. Là, peut-être, je me tourne deux secondes et après, je te redonne la parole, Chloé. Myriam, Émilie, vous faites plein d'activités avec les jeunes aussi.
Oui, c'est ça.
Vous leur donnez accès à plein d'activités qu'ils n'ont pas la possibilité de faire, en tout cas, que beaucoup de parents n'ont peut-être pas envie de leur faire faire.
C'est ça. Après, comme disait Agathe, on a la chance d'avoir un tout petit établissement avec un encadrement qui est quand même très intéressant. Donc c'est vrai que ça nous permet toujours d'être des éducateurs, des infirmiers, et du coup on a la possibilité de leur faire faire tous les sports, effectivement, que leurs parents ne peuvent pas leur faire faire parce qu'ils ont peur, et puis parce que voilà, on peut comprendre que c'est pas évident. Mais après, voilà, avec toutes les sécurités possibles, en tout cas, ils peuvent faire la majorité des sports. Donc on les emmène à la piscine avec un encadrement de 1-1. Donc voilà, les adultes vont dans l'eau avec eux.
C'est ça. Donc oui, parce que la piscine, c'est vrai que techniquement, quand on y pense, on se dit oh là là, et si jamais. Mais donc là, il y a une personne qui accompagne.
Toujours, voilà. Okay. 1-1. Donc voilà, la piscine, l'escalade, le tir à l'arc, on en a fait aussi pendant les vacances. Ouais. Du vélo, de l'acrobranche, du trampoline, ouais. On en a fait, voilà, on fait
l'acrobranche aussi,
de l'acrobranche, voilà. Mmh. Après, c'est vrai que cette année, on est vraiment sur un thème bouge ton cossé, donc avec beaucoup de sport, donc on a fait tout ce qui était possible, voilà. On était sur un projet escrime, bon, ça se fera peut-être plus tard. Mmh. Mais en tout cas, voilà, on leur interdit rien et quand ils sont heureux, bah nous, ça nous va.
Alors Chloé, justement, tu voulais faire de l'escalade. On t'avait dit, c'est pas possible, c'est pas pour toi, et finalement t'en as fait. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Bah, j'ai bien aimé.
Ouais? T'as envie de recommencer?
Oui.
Et puis ça s'est bien passé?
Oui, je suis pas tombée.
T'es pas tombée? Puis de manière, n'importe qui fait de l'escalade peut tomber.
C'est vrai.
Hein? Moi, si je monte, par exemple, je suis sûr que je tombe. Est-ce que t'as le vertige ou pas?
Non.
Non? Ça, c'est plutôt une bonne chose.
Oui.
Donc, est-ce que tu recommenceras? Je t'ai déjà posé la question, est-ce que tu avais envie, mais est-ce que tu recommenceras?
Oui, je vais recommencer.
Est-ce qu'au niveau du COSE, on peut accompagner une jeune fille comme Chloé qui a envie, alors là, elle a pratiqué, elle a essayé, mais elle a envie de le pratiquer un peu plus. Est-ce qu'on peut l'accompagner? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Comment elle peut aller vers l'escalade si c'est quelque chose qui lui plaît?
C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on accompagne des jeunes comme ça, des activités extérieures, et bien souvent, on explique aux profs, en fait, quel est le type de crise, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une crise. Et on sécurise un peu tout le monde, comme ça, le prof est au courant.
Parce que Chloé, je vais en escalade, le risque d'une crise, elle reste attachée comme n'importe qui. Donc finalement, à part être bloquée quelques secondes, quelques minutes peut-être en
hauteur. Puis on connaît le type de crise de Chloé, maintenant, ça fait pas quelques années que t'es chez nous. Ouais. Hein. Et du coup, voilà, on va pouvoir guider le prof si jamais il y a une crise. On sait exactement quel type de crise elle fait, ça dure 3 secondes. Il n'y a pas trop de danger dans le sens où elle sera attachée, donc... pour nous, il n'y aura pas de difficultés particulières.
Finalement, pour nos jeunes épileptiques, c'est surtout la seule consigne pour l'escalade, vraiment concrète, c'est que ce n'est pas eux qui assurent quelqu'un.
Oui,
parce que pour le coup, si eux font une crise au moment où
ils
assurent, la sécurité n'est pas garantie. Mais en dehors de ça,
ils peuvent monter.
Ils peuvent monter.
C'est ça. Donc, tu n'assureras personne. Ce n'est pas plus mal, parce que ça fait mal au bras.
C'est ça. Mais ce n'est pas très drôle.
Et ce n'est pas très drôle. Par contre, toi, tu vas monter. C'est toi qui feras les photos là-haut. C'est ça, Chloé?
Non.
Bon, en tout cas, merci pour vos témoignages. Vous voyez, je vous avais dit quand on a avant l'émission, vous me disiez oh là là, ça va se passer comment? C'est déjà presque fini, et je le regrette parce qu'on avait plein de choses encore, je suis sûr, à se raconter. Moi, je vous remercie tous les quatre de la confiance que vous nous avez faite, de nous raconter vos histoires, de vous raconter, de nous expliquer ce que vous aimez, ce qu'on vous avait dit que vous pouviez pas faire et que vous faites aujourd'hui. Merci à tous les quatre, et je crois que le reste, on peut vous applaudir. Merci. Émilie, je rappelle que vous êtes infirmière au COSÉ, dans la filière épilepsie de l'OHS de Nancy. Agathe Dessa, vous êtes vous, épileptologue, donc docteur sur les épilepsies, également au sein du COSÉ de la filière épilepsie. Et Myriam, vous êtes éducatrice spécialisée. Merci à toutes les trois.
Merci à vous.
D'être venues répondre à nos questions. Je me tourne pour finir vers toi, Céline. Très rapidement, on est très en retard, mais je me suis que tu m'en voudrais pas si on donnait plus la parole aux jeunes.
Non.
Mais il y a quand même peut-être quelques
ressources
qu'on peut citer très rapidement.
Retenir le message clé de la priorité de la qualité de vie.
Oui, c'est
et
ça.
Comment on trouve cette priorité, enfin comment voilà, on peut travailler à cette priorité, toujours objectiver les risques. Mmh. Voilà, je retiens vraiment ces deux points-là qui me semblent nécessaires pour permettre à ces enfants de grandir avec l'épilepsie. Quelques ressources rapidement. J'aimerais bien qu'on cite le projet Epilepsia Waves, porté par Eva Ménard. On en donnera quelques informations sur le site internet.
Bien sûr.
Et puis plus précisément sur les loisirs, la brochure d'Épilepsie France, loisirs et épilepsie. Épilepsie et écran, par le centre de référence Épilepsie Rare Robert Debré. Et le guide de voyage, on n'a pas trop abordé les vacances,
non, c'est
mais c'est pas grave, ça pourrait être
ça
l'objet d'une future
sûr.
Émission. Guide de voyage disponible via le site de la fédération EFAP.
Merci
voilà.
beaucoup,
Merci
Céline.
Merci à vous tous.
Merci.
On va se quitter, je propose, je crois que c'est toi Chloé qui voulais écouter Indila. Eh bien, on va écouter Indila pour finir cette émission. Si vous avez écouté qu'un petit bout de cette émission, vous nous avez rejoint en cours d'émission, vous la retrouverez très très vite sur YouTube, également en podcast sur le site internet www.rcn-radio.org. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Et puis c'est tout. Et là, on se quitte avec Indila.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.